Bon, hello. Et la partie 2 est là. Elle a mis beaucoup de temps à arriver, mais elle est là. On va aborder tout plein de sujets, notamment la vie après le bac. C'est peut-être encore loin pour vous, mais incroyablement intéressant. Du moins, parce que c'est Yovana et que son parcours est super intéressant. Dans la première partie de cet épisode, on s'était arrêté sur les écoles, les classements, notre compréhension des classements, l'existence des classements. Donc, il y a mille et une choses que ces super écoles et universités nous offrent. Cependant, ce que je souhaite souligner, c'est que l'école ne fait pas tout. Je pense l'avoir déjà dit, ou du moins, vous m'entendrez le dire encore et encore. C'est qu'elle ne fait pas tout. Et là, encore une fois, Yovana va pouvoir le souligner. C'est qu'elle a fait des sacrifices. Elle a passé des heures et des heures à travailler sur des projets en dehors de ses études. Sans ses expériences en parallèle, il sera très dur d'avoir non seulement une confirmation de votre intérêt. Donc oui, donc du coup, j'ai pu faire ce stage, j'ai pu faire ça, j'ai pu faire cette, j'ai pu m'engager associativement. Et en fait, c'est vraiment des sujets qui m'intéressent, sur lesquels j'ai envie de travailler sur le long terme. Mais en plus de ça, c'est ce qui vous permettra, sur le long terme, d'accéder à des stages, à des offres d'emploi. Repartons sur l'épisode. Donc, Yovana, dis-nous tout. Parle-nous de tes années lycée, parle-nous de tes années à l'université, de ton échange, qui, j'en suis sûre, va intéresser plus d'une personne, surtout quand ils vont découvrir où c'était. Je te laisse la parole.
Écoute, moi, je t'ai dit à cette époque-là, très averse au travail. Je ne savais pas ce que c'était la discipline. J'ai papillonné d'intérêt en intérêt. Et c'est en faisant ça que je me suis retrouvée, et j'ai eu de la chance, à mettre des efforts là où il fallait, mais sans que je considère ça comme du travail. Pour moi, tout ce que j'ai pu apprendre, ça a été des hobbies. Enfin, même ce que j'apprenais au lycée et qui était parfois plus compliqué. J'ai fait une filière, à l'époque, ça s'appelait la L, une filière littéraire. J'ai passé un bac L. Du coup, j'ai assez rapidement eu moins de sciences, moins de maths, et j'ai pu me concentrer, en fait, sur toutes les matières qui m'ont passionnée. Donc oui, d'une certaine façon, ça a eu un aspect colossal. J'ai pu, par exemple, avoir mes concours du Louvre et les réussir grâce, clairement, à ces voyages, grâce à cette... enseignement d'histoire de l'art qui m'a permis de trouver le concours d'ailleurs très facile, alors même qu'il a un niveau de sélectivité très fort. Je me rappelle même plus ce que c'était la dissertation, mais j'avais toujours une forme d'appréhension sur les dissertations parce que c'était un exercice sur lequel j'étais un peu moins à l'aise que mes copains-copines et qui, du coup, nécessitait franchement de la discipline et du travail. Et donc, j'étais toujours un petit peu, comment dire, à la traîne sur ces aspects-là parce que enfin c'était pas la façon dont j'ai grandi ou dont j'ai fait les choses. D'ailleurs, enfin honnêtement, j'ai eu aussi des moments de paresse ou des moments où c'est même pas forcément de la paresse, mais c'est plutôt face à la difficulté, vu que je me suis pas construit en persévérant dans des choses qui étaient compliquées pour moi. J'ai plutôt toujours choisi la facilité et quand je me suis retrouvée confrontée à des obstacles, c'était d'autant plus difficile. Mais toujours est-il que, on a fait les dossiers de motivation, de demande d'université, etc. J'ai écrit mes lettres de motivation, mais c'était une période un peu floue pour moi. Je ne savais pas trop ce que ça voulait dire de s'orienter, ce que ça pouvait avoir comme conséquence sur mon avenir ou quoi que ce soit.
Je demanderai aux personnes qui nous écoutent si reparler des questions d'orientation, ça les intéresse. S'il faudrait qu'on en discute davantage avec toi ou avec une autre personne. Parce qu'effectivement, c'est assez compliqué quand on est si jeune et qu'on ne se connaît pas encore très bien, ou du moins qu'on ne sait pas quelle direction prendre. Mais bon, dis-nous tout sur tes années à l'université. Est-ce que ça te correspondait? Dis-nous tout.
L'université correspondait à tout ce qu'il me fallait. J'étais très très bien dedans. Enfin, toute la curiosité, tout ce que j'ai pu acquérir comme chose au lycée, mais aussi au collège en vrai, à ce moment-là, m'ont plu. Pour te redonner un peu de contexte, moi à la base, je trouve la question de est-ce que j'ai toujours voulu faire de l'histoire assez importante, parce que c'est une matière qui m'a fascinée très rapidement. Le premier cours d'histoire que j'ai eu, ça a été une révélation. J'étais là en mode... mais comment ça se fait? Je crois que mon premier cours était en CM1. Je fais, mais comment ça se fait que jamais personne ne m'a parlé de cette matière absolument fantastique? Et je crois qu'on parlait de Clovis pour la première fois, mais j'étais là en mode, c'est trop bien, mais il y a des choses qui se sont passées avant nous. Enfin, je sais pas, ça m'a fait une prise de conscience. Enfin, je sais même pas si c'est une prise de conscience, mais c'était juste un intérêt et vraiment énorme, déjà assez rapidement. Et donc, quand tu me posais la question sur qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais plus jeune, et etc., enfin, honnêtement, pendant très longtemps, j'ai dit que je voulais être prof d'histoire géo. Enfin, pour moi, c'était fascinant. C'était tous les centres d'intérêt que je pouvais avoir étaient réunis dans cette matière. C'était fantastique. Je me rappelle que j'avais beaucoup de respect pour mes profs d'histoire, tous les uns après les autres. Et je trouvais leur métier fantastique. J'étais là en mode, mais ils font de l'histoire tous les jours. Mais quelle chance! C'était plutôt de cet ordre-là, enfin, un peu, comment dire, une idée de loin. Et puis, au fur et à mesure, je ne sais pas comment ça s'est venu exactement, mais je pense que c'est beaucoup lié à cette copine à moi qui dessinait beaucoup. J'ai décidé de vouloir faire des questions un petit peu plus artistiques. Je me suis rendu compte que je n'étais pas une aussi bonne artiste qu'elle et que peut-être l'architecture, ça pourrait me plaire. Donc, on avait les stages d'observation en troisième. Et j'ai eu la possibilité donc de faire ce stage d'observation, me rendre compte qu'ils travaillaient que avec des ordi et qu'ils dessinaient pas forcément tous les jours. Bon, ils m'ont donné quand même sur leur grande table d'architecte des calques et des trucs pour faire des perspectives et je me suis beaucoup amusée et c'était très très sympathique. Mais je me suis dit ils font des gros projets, des trucs comme ça, mais est-ce que c'est forcément ce que je veux faire? Il y a un peu trop de maths dans cette histoire. Je crois pas que ce soit pour moi. Enfin, en vrai, je ne sais même pas si c'est exactement comme ça que ça s'était formulé, mais donc j'ai essayé de retrouver un petit peu d'autres orientations artistiques. Je t'avais dit que quand j'avais mis des vœux de lycée, j'avais mis l'histoire de l'art comme option de recherche, enfin comme option de préférée, et donc ça m'a permis d'avoir certains lycées qui proposaient cette option. J'avais aussi mis quelques lycées qui proposaient l'option art plastique. Mais je sentais déjà à ce moment-là que j'étais pas non plus hyper brillante pour ça, même si je me suis posé la question un petit peu ce que je pourrais pas faire, les beaux-arts, l'art déco. J'avais fait un stage pendant l'été de modèle vivant, donc en gros tu dessines des gens nus aux beaux-arts. C'était assez top comme ça. J'étais peut-être en terminale, hein. J'étais pas déçue, mais j'étais pendant longtemps convaincue que j'allais faire quand même du dessin ou des choses comme ça.
Mirena, du coup, pour les personnes qui nous écoutent, qui sont à Paris ou qui sont prêts à se déplacer à Paris, tu fais comment pour rejoindre ce genre de stage? C'est un stage avec une convention qu'il faut que tu soumettes, enfin, comment ça se passe?
Alors, c'était pas un stage dans le sens stage professionnel, c'était plutôt, tu sais, comme tu fais des colos ou des trucs de vacances.
Ah, oui, exactement.
Tu payes et tu fais les cours, quoi. Et donc, c'était un stage intensif de une semaine dans les locaux des Beaux-Arts. J'allais tous les matins à côté de la Seine, sur la rue Bonaparte, faire ça. Mais bon, donc j'étais pendant longtemps persuadée que j'allais faire des trucs artistiques. Et finalement, l'histoire de l'art était un bon débouché. Je t'avais dit, je me voyais un petit peu une forme de slash diplomate, slash experte S-culture à l'UNESCO. Il y avait une forme un petit peu de, comment dire, sacralisation dans ma famille, des métiers un peu de la diplomatie. Ma mère, si elle avait pu, elle aurait fait diplomate. C'est quelque chose qui l'a beaucoup frustrée. Elle est dentiste, elle parle 10 langues, mais on va dire, ses yeux brillent à l'idée si elle avait pu être traductrice dans la diplomatie ou diplomate, elle aurait pu le faire. Et donc, je pense que ça a un peu nourri aussi mes réflexions. Finalement, c'est quand je me suis rendu compte que j'aime pas du tout l'esthétique, dans le sens, est-ce que le trait hein, comme ça, la touche de ce peintre va me permettre de reconnaître s'il l'a écrit, s'il l'a dessiné en début de carrière ou en fin de carrière et faire des expertises sur ça, ça ne m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, c'était plutôt, donc, je te disais, l'histoire des gens les uns avec les autres. On revenait un peu plus à l'histoire. J'avais déjà mis histoire dans mes vœux de fac pour faire ces équivalences. Et quand j'ai fait un cours qui s'appelait Guerre et Société, ça m'a transcendée. C'était incroyable. C'était à nouveau comme Clovis, là, quand je l'ai utilisé la première fois dans mon premier cours d'histoire. J'étais là en mode, mais pourquoi je voulais faire autre chose toute ma vie? C'était une évidence. Enfin, une évidence pas si évidente. Il y a beaucoup de choses qui ont mené au fait que ce cours m'ait passionnée. Donc, guerre et société, ça permettait de replacer l'importance de la guerre dans son contexte social. Qu'est-ce que ça voulait dire? Quelle transformation ça pouvait amener à la société? C'était un cours assez précis. Il avait lieu de 19h30 à 21h, enfin, vraiment un horaire un peu obscur dans les salles de cours de Tolbiac à l'époque. Pourquoi je te raconte ça? C'est parce que moi, quand on avait été l'année d'avant, donc à Berlin, on avait fait un musée où il y avait les grandes portes d'Ishtar à Babylone. C'est des gros, gros, gros monuments qui ont été transportés à Berlin, qui sont donc une voie royale qui était à Babylone, où tu as quelque chose de très coloré parce que c'est un émail, donc c'est un bleu hyper électrique, et c'est une grande voie imposante, monumentale, avec plein de lions qui représentent la déesse Ishtar, qui était une déesse babylonienne et de Mésopotamie plus généralement là-bas. Moi, j'avais jamais connu quoi que ce soit qui touchait à cette période historique, mais j'ai trouvé ça incroyable. Que ce soit en termes de beauté, que ce soit en termes de sentiment, de curiosité que ça a élicité chez moi, de mais comment est-ce qu'une société, une civilisation a pu exister autour de ça ? Fascinant de découvrir qu'il y a eu des gens qui ont fait des fouilles archéologiques, qui ont découvert des choses autour de ces populations, qu'on pouvait savoir comment certains avaient fait la guerre aux autres à certains moments. Et je trouvais ça à la fois très intéressant parce qu'il y avait une forte dimension politique, mais aussi ça permettait de parler de la société derrière, qui étaient les soldats, comment est-ce qu'on venait à être soldat. Ensuite, il y avait eu deux autres cours dans la même séquence. On a fait 4 séances sur les Assyriens, 4 séances sur la Grèce antique et 4 séances sur la Rome antique. Et moi, ce cours-là m'a transcendée. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que j'ai toujours été hyper curieuse de ce qu'on apprenait à l'école du Louvre, mais c'était trop précis. On se disait, ah voilà, ce style de frisette était spécifique des vases du 5e siècle. Et finalement, en fait, je me suis rendu compte que les cours de guerre et société faisaient le lien avec la toile de fond de ces œuvres d'art qu'on voyait pendant qu'on étudiait à l'école du Louvre. Mais en fait, moi, j'étais pas intéressée par l'objet qui était en vitrine, j'étais intéressée par la toile de fond. Et donc, tout en consciente que j'avais ce prisme un peu international, je parlais déjà à l'époque du coup français, anglais, serbe, j'avais fait mes cours d'espagnol et je commençais à me lancer en autodidacte sur le japonais. Je savais que j'avais envie de faire un truc international. Ça aurait été dommage de passer à côté. Donc, je me suis renseignée. Il y avait aussi un master de relations internationales qui pouvait conduire à la suite de... Enfin, un magistère même de relations internationales qui pouvait conduire à la suite de mes études à parler plus de relations internationales que la simple histoire. Et avoir fait une licence d'histoire était compatible avec l'entrée dans ce master. Donc, globalement, j'ai pu faire ce choix de me réorienter après l'école du Louvre grâce au fait d'avoir mis Paris 1 dans mes choix, d'avoir fait ces quelques cours là-bas et donc de changer assez facilement finalement de cursus alors que finalement ça aurait pu être plus compliqué. J'avais fait aussi d'autres tests. Il y avait un examen d'entrée dans une école de relations internationales privée qui, elle, proposait de faire ça dès la première année. Mais déjà, je trouvais que c'était odieusement cher. C'était de l'ordre de, je sais pas, 7000 euros l'année ou quelque chose comme ça. Donc, j'étais très attachée au côté public, moi, de l'éducation. Je trouvais que c'était formidable d'avoir une éducation de qualité gratuite au sein en France. Et donc, si déjà on avait cette chance, je voulais absolument pas mettre ni ce poids financier ni sur ma mère ni sur moi. Me voilà en première année d'histoire et je découvre un cours, enfin c'est pas un cours, c'est un événement sur Facebook. À l'époque, on faisait beaucoup d'événements sur Facebook, d'une association qui s'appelait Sorbonne ONU et qui proposait des cours d'éloquence et de débat en anglais. Et moi, c'était Incroyable! À nouveau, encore ce choc comme j'avais eu sur l'histoire. J'étais là en mode, mais un concours d'éloquence, ça existe? Moi, j'adore parler. D'être avec des gens, mais en anglais en plus, parce que j'adore ça en anglais. Et donc, c'est là que j'ai rencontré l'association Sorbonne ONU, que je me suis dit, mais waouh, c'est incroyable, il y a des choses trop bien que j'aurais toujours voulu faire, mais je ne savais pas qu'il existait, que d'autres gens ont créé. Waouh! Et je me suis inscrite après dans cette association pendant les 7 ans qu'ont duré, enfin, 6 ans qu'ont duré mes études à la Sorbonne. J'ai eu un parcours qui m'a permis de faire donc ces cours de débat en anglais. D'abord, de participer avec une forme de syndrome de l'imposteur, comme je disais. J'allais dire au début, quand tu me décrivais ce podcast, que bon, bah, globalement, moi, je n'ai pas eu de syndrome de l'imposteur. Je ne l'ai pas trop vécu, etc. Mais en vrai, c'est faux. C'est faux parce que quand je suis arrivée, j'étais intimidée. Il y avait étudiant qui était en master, qui allait bientôt finir ses études, qui était déjà un peu entrepreneur à ses heures, qui avait trouvé ça fascinant de faire du débat et qui avait ramené le style anglais à la Sorbonne, qui proposait de faire ça. Mais moi, j'étais une petite étudiante qui venait à peine en L1, etc. Je me sentais pas du tout légitime de prétendre à être dans l'équipe de débat officielle, on va dire, à ce moment-là. Donc, je faisais le débat à chaque cours. J'adorais être participée, etc. Mais j'étais pas dans l'équipe. Et j'ai mis longtemps à passer le cap de participer d'abord en tant que remplaçante dans l'équipe, puis après en tant que membre, on va dire, à temps plein. Et prendre des responsabilités aussi, parce que finalement, ce hobby, il a pris de plus en plus de temps dans ma vie. J'ai certes fait tout ce que mes dissertes, fait beaucoup de choses, mais j'ai aussi beaucoup été impliquée dans la vie étudiante. J'ai été responsable de ce pôle débat. J'organisais administrativement tout ce qu'il y avait à faire, les réservations de salles, les demandes de subventions à la fac, les choses comme ça. Je me suis aussi beaucoup impliquée dans cette association Sorbonne ONU en faisant d'autres choses avec eux. J'avais eu l'occasion de faire des simulations des Nations Unies, des MUN. Ça aussi, c'était transcendant pour moi. Mais waouh, on jouait à la diplomatie un peu sérieusement. On avait fait aussi beaucoup d'entraînement avec les gens. Et donc là, je me rappelle qu'on pouvait choisir son pays. Mais je crois que j'avais même pas eu à choisir. Je m'étais retrouvée dans un entraînement où j'avais eu le Japon. Et on devait parler d'éducation. Et donc, j'avais lu tous les rapports de l'UNESCO et de l'OCDE sur l'éducation au Japon et la place que le Japon voulait avoir dans les relations internationales, etc. Et je crois que c'est un rapport que je cite encore, puisque je l'avais lu avec tellement de détails et d'attention que je le cite encore. Mais c'était fascinant. C'était un nouveau monde qui s'est aussi ouvert à moi grâce à ces activités-là. J'ai beaucoup hésité aussi pendant plusieurs semaines que les inscriptions étaient ouvertes pour rejoindre une toute nouvelle antenne qui s'était créée de cette association qui s'appelait UN Women, donc ONU Femmes, qui avait vocation de parler de questions d'égalité de genre. Et du coup, par contre, la valeur de l'égalité était très importante et de la justice était très importante pour moi. Et je me suis retrouvée à faire des expositions, des événements sur le thème de l'égalité femmes-hommes, découvrir plus de choses, m'impliquer de plus en plus dans des associations féministes, des associations féministes intersectionnelles. C'était très important pour moi, mais pas au début. Au début, j'étais plutôt du genre, il ne faut pas être trop brusque, faut pas trop brusquer les gens. C'est mieux de faire du changement un peu consensuel, des choses comme ça. Puis après, j'étais beaucoup, beaucoup plus radicale, en tout cas dans les demandes d'égalité que j'ai pu faire à travers mon engagement dans différentes assos. Et quand je te dis radicale, c'est par exemple c'est par l'exemplarité que tu peux faire des choses. Et pour moi, c'était d'aider une association qui donnait des cours de français à des femmes exilées et garder aussi leurs enfants pendant qu'elles faisaient les cours le dimanche matin. Et ben, pour moi, c'était ça, être radicale. Et tu vois, c'est pas en faisant la conférence finalement qui tout le monde va dire oui, c'est bien d'être égaux, mais c'est plutôt de donner des opportunités aux femmes de monter en compétences tout en prenant en compte leurs besoins spécifiques. Et voilà, donc ça, c'est des choses qui se sont déroulées dans ma vie au quotidien pendant mes études à la fac et qui ont fait que j'avais ce cap de je voulais faire ce magistère, j'avais ce cap de mais je suis trop bien en histoire. Et finalement, après, quand j'ai fait le magistère, c'est le côté associatif qui a un peu plus dominé ma vie au quotidien que réellement les études. Après, je mentirais bien, mais c'était déjà un peu professionnalisant. Et j'ai fini mes études en étant présidente de cette association. Et là, pour le coup, on gérait tous les streams, que ce soit l'environnement, les droits humains, et j'en passe, enfin, les droits des enfants. On avait plein de thématiques, plein de conférences. On avait fait plus d'une centaine dans l'année, donc entre fin septembre et mai. Voilà. Donc, c'était l'histoire de mes choix d'orientation et de comment, en partant de vouloir faire prof d'histoire, je me suis retrouvée dans les relations internationales et après dans le monde associatif, qui n'était pas forcément un choix de carrière, mais où je me suis retrouvée beaucoup.
Ton parcours est remarquable, Giovanna. Merci beaucoup de l'avoir partagé avec nous et nous avoir vraiment montré en fait l'envers du décor. Et du coup, j'ai vraiment envie de basculer sur cet élément. Est-ce qu'il y aurait des choses que tu aurais fait différemment ces dernières années ?
Peut-être que je me serais un peu plus concentrée sur mon apprentissage en magistère. Tu sais, je disais que... Enfin, non, c'est pas vraiment que ça. C'est juste que j'ai beaucoup donné de l'énergie à cette association. Et sur l'année où j'étais présidente, je pense que j'ai dû passer plus de 35 heures par semaine à dédier du temps à cette association, minimum. Et en plus, j'avais mes cours. Et en plus, j'avais ma vie privée aussi à gérer, etc. Et j'ai beaucoup, beaucoup sacrifié mon sommeil à ce moment-là. Donc, j'ai fait des très courtes nuits. Je me rappelle, il y avait certains cours où j'arrivais et mes yeux se fermaient tout seuls parce que j'en pouvais plus. Enfin, le cours était à 8 heures et j'avais plus l'énergie, etc. Donc, je ne sais pas si c'était que l'année où j'étais présidente, mais globalement, je me suis surinvestie. Ce que j'ai beaucoup aimé, hein, mais c'est juste au détriment de moi-même. Et j'étais la variable d'ajustement beaucoup dans ces investissements-là, et je l'ai fait un peu au détriment de moi ou de m'écouter moi. Alors, c'était fascinant, c'était trop bien. Je referais probablement la même chose si je pouvais, mais je dormirais peut-être un petit peu plus. Et j'écouterais ces cours qui, finalement, étaient fascinants aussi. J'avais un cours d'économie du développement que je trouvais fascinant, mais j'arrivais pas à garder les yeux ouverts. Ma tête faisait des allers-retours. Je me retrouvais à essayer de caler mon coude en dessous pour ne pas avoir la tête qui part vers l'avant, tellement je m'endormais. Donc ça, pour le coup, je l'aurais fait différemment.
Merci pour toutes tes explications, Giovanna. J'apprécie ta transparence et ton honnêteté et j'espère que ça aidera des personnes à aussi se poser les bonnes questions avant de se lancer. On n'a pas parlé de quelque chose. Si t'as encore quelques minutes, j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie qu'on puisse partager cette expérience avec les personnes qui nous écoutent. Ton échange à l'international. Et notamment au Japon. Dis-nous tout.
Je savais qu'il y avait la possibilité de faire des échanges. Je l'ai découvert quand j'étais en deuxième ou en troisième année de licence. Non, mais je suis même peut-être en deuxième année et je savais que je voulais faire en sorte de mettre toutes mes chances de mon côté pour y aller, quel que soit le master que j'obtenais. Donc, le magistère en question, donc j'ai fait tout pour aussi pouvoir y aller. J'ai suivi, par exemple, un peu de façon faillotte le cours de la prof qui était responsable des directrices du master plutôt que le cours sur l'histoire contemporaine de l'Asie qui m'aurait beaucoup plus plu à l'époque, comme ça, pour être sûre que j'avais les bons éléments et la proximité nécessaire pour avoir ce magistère-là. Et j'avais fait en sorte aussi de pouvoir savoir que les échanges étaient possibles dans tous les cursus que je demandais. Donc j'avais demandé ce magistère de relations internationales, mais le taux de sélectivité était énorme. Il n'y avait que 18 personnes pour des milliers de candidatures, donc c'était vraiment compétitif. Donc je n'étais pas du tout convaincue que j'allais réussir à l'avoir du premier coup. Enfin, en fait... J'ai fait tout pour, et je partais du principe que j'allais l'avoir, mais je me laissais la porte ouverte aussi à cet échec aussi, puisque moi j'étais convaincue, mais les chiffres n'étaient pas forcément en ma faveur. Et j'ai fait en sorte aussi de regarder quels étaient les autres masters disponibles. Il y avait un master d'histoire des relations internationales et j'avais déjà commencé à travailler sur quel serait mon thème de recherche. Au début, j'en avais pris un très historique qui m'avait passionné, mais qui n'était pas assez orienté relations internationales. Et après, j'ai retravaillé pour trouver un qui permette d'être très contemporain et donc d'avoir quand même un outil sur lequel je pourrais après me reposer pour un master, enfin pour un mémoire qui pourrait être un peu carte de visite pour justifier que de l'histoire, on passe quand même vers des relations internationales et de quelque chose de très contemporain. Et donc, je suis partie au Japon, finalement, parce que j'ai eu mon magistère, en deuxième année de magistère, donc j'ai fait une année à Paris et 6 mois, enfin une demi-année très intense en deuxième année à Paris et la deuxième partie de l'année. Donc moi, mes cours commençaient en mars au Japon jusqu'en août. Et donc j'ai fait ce temps-là en 2018 là-bas et c'était absolument incroyable. Je savais que je voulais y aller, j'avais déjà fait des voyages au Japon, j'avais quelques connaissances là-bas. Finalement, je savais déjà que je pouvais me débrouiller au Japon, qu'il y avait des trucs qui allaient bien se passer, etc. Mais je ne savais pas à quoi ressemblerait ma vie, mes cours et tout ça. J'ai eu une résidence étudiante où on était un peu un mix entre des étudiants étrangers et des étudiants japonais. En général, eux, ils étaient en première année de fac. Je n'ai pas réussi forcément à créer des liens 100% avec eux. Ce que j'ai fait, c'est plutôt créer des liens avec des associations étudiantes, encore une fois, comme d'habitude. Et je me suis inscrite, et ça c'est très courant au Japon, dans des clubs. Et j'ai fait un club de débat, sans surprise, en anglais. Et j'ai fait un club de danse hip-hop pour un petit peu tester ça. Et j'ai fait des cours qui étaient passionnants sur la politique et asiatique. J'ai pu choisir des trucs qui étaient formidables et qui m'ont nourri au plus profond de mon être de toutes les curiosités que je pouvais avoir. Donc, avec des gens qui étaient des profs formidables. C'était une des meilleures écoles, universités au Japon. Et franchement, moi, je l'ai vécu par la qualité des enseignements. C'était top. Ils avaient aussi des ressources qu'on n'avait pas forcément, nous, de notre côté. L'école n'est pas gratuite chez eux. Du coup, tu payes, mais ils ont plus de ressources. Donc, tu pouvais avoir accès à plus d'articles spécialisés, de choses comme ça que nous, on en aurait eu. Et il y avait tous ces clubs. Et moi, ça, c'est un truc formidable. Je pensais que j'allais aller dans le club de débat en anglais, ils parleraient anglais, on aurait des atomes crochus et on parlerait de débat tout le temps. Et ben, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même une barrière interculturelle assez forte, malgré la langue ensemble. Enfin, on la parle, elle est commune, mais on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Moi, j'étais un ovni. Et donc, on n'avait pas forcément aussi les mêmes méthodes de débat. Ils étaient très compétiteurs, mais moins sur pourquoi on débat, etc. Ils étaient là juste pour gagner des débats et avoir des techniques de débat. Et j'étais là en mode, mais c'est un choc culturel. Moi, le débat, ça fait partie de la culture française. On débat de tout. C'est pas possible d'avoir... théoriquement, si tu sors ce type d'argument, tu gagnes. C'était des paysans finalement, alors même qu'on avait la langue commune. Et de l'autre côté, chez les gens qui faisaient du hip-hop, je me suis retrouvée dans... Il y a un peu des voyages d'inté qu'ils font pour les gens qui rejoignent le club. Et j'étais la seule non-japonaise dans un groupe de 300 personnes globalement. Mais comme je parlais japonais, ça m'a ouvert beaucoup plus de portes que mes copains qui avaient fait des cours d'essai et qui finalement ne s'étaient pas lancés. Et en vrai, j'étais hyper mauvaise en danse, je comprenais que dalle, j'étais beaucoup moins gracieuse que tout ça. Mais genre, j'étais un ovni de toutes les façons, tu vois. Genre, j'étais le petit gremlins blond de toutes les façons, alors tant qu'à faire, tu vois, je cultivais un peu ma différence. J'ai découvert un aspect de la culture japonaise que tu ne peux pas connaître si tu n'as pas fait, je pense, des études et la vie étudiante là-bas. Je l'ai vu un petit peu, tu sais, dans les mangas, mais j'étais là en mode, mais je suis dans un manga, c'est incroyable. J'avais l'impression de vivre un peu un rêve. Franchement, c'était un moment hors du temps. Vraiment formidable. Enfin, c'était une expérience transcendante, que ce soit en ce que j'ai appris à l'école elle-même, ce que j'ai appris en termes culturels avec que ce soit les débatteurs ou que ce soit les danseurs et avec les musiciens. Et finalement, je pensais que j'allais me faire plein de relations dans les relations internationales avec des gens qui aiment bien l'ONU et me faire des contacts professionnels. Eh ben non, en fait, j'ai vécu, je me suis laissée en une forme de liberté totale et c'était incroyable. Franchement, une des très, très bonnes expériences de ma vie. Ça.
Tes yeux brillent. Ok, donc c'était vraiment une expérience à ne pas rater et je suis si contente que tu aies pu la faire, que tu aies pu avoir cette opportunité, mais que tu t'es aussi créé l'opportunité. C'est vraiment des événements en fait, qui sont hyper intéressants pour les personnes qui nous écoutent parce que on comprend que ça ne s'est pas arrivé en fait d'un jour à l'autre, mais qu'il y a eu un travail assez conséquent pour te permettre de t'y rendre et de vivre l'expérience que tu espérais tant. Merci, Yovana. Merci beaucoup. Du coup, pour terminer cet épisode, j'aimerais qu'on parle du coup de ta vie aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais nous dire si tu fais enfin ce que tu veux, après toutes ces années d'études?
Je fais maintenant du consulting en développement durable dans une société chez qui j'avais déjà postulé avant d'y être maintenant. Mais ce qu'elle faisait avant n'était pas exactement 100% pleine balle ce que je voulais faire. À l'époque, il faisait beaucoup de thématiques sociales et RH en consulting. Franchement, je ne savais pas exactement ce que ça voulait dire non plus. Et ils étaient très digitaux et je n'avais aucune compétence en numérique ou en digital. Je l'ai acquis quand j'ai fait après des missions pour des associations, notamment qui promouvaient les femmes dans le numérique. Je suis montée en compétences et après, j'ai repostulé quand ils ont créé un département spécifique à la suite. Et donc, le développement durable au sens large, qui comprend aussi bien l'environnement que les questions sociales. Et là, c'était pleine balle ce que je voulais faire. Et finalement, c'était une occasion manquée peut-être au début, en tout cas, c'est ce qu'on aurait pu croire quand j'avais postulé et qu'ils ne m'avaient pas accepté. Mais ce n'était pas pleine balle ce que je voulais faire. Et finalement, la solution s'est trouvée plus tard. Le marché a mûri et ce que je faisais de façon un peu d'abord freelance pour des associations et des boîtes au début, de façon un peu très modeste, a évolué en CDI. Je me suis rendu compte que j'aime pas les CDI, on va dire classiques, au sein des équipes normales. Et j'ai refait du consulting. Et là, c'était pile poil ce qu'il fallait, avec les ressources qu'il fallait, les gens qu'il fallait. Et je suis très contente de faire ce que je fais maintenant. Et je suis 100% alignée sur la question aussi bien développement durable, qui fait écho à mes engagements, que à la question de relations internationales, parce que je travaille beaucoup avec l'international et avec des problématiques internationales.
Merci beaucoup, Yovana. C'était juste un épisode absolument fascinant. Je suis tellement contente que tu sois la personne avec qui je lance ce podcast. J'en suis sûre que ton parcours va en inspirer plus d'un et plus d'une. En tout cas, si vous avez écouté l'épisode jusqu'à maintenant, n'hésitez surtout pas à m'écrire sur les réseaux sociaux, sur TikTok et sur Instagram, sur qu'est-ce que vous en avez pensé, est-ce que vous avez des questions sur certains éléments qui ont été mentionnés. En tout cas, on fera du mieux qu'on peut pour y répondre. Et j'espère que vous avez pris des notes parce qu'il y a tellement d'éléments qui ont été partagés, des réflexions, des choix, des risques.
Et j'ajouterais à ça qu'on est dans un monde aujourd'hui où les étiquettes ne fonctionnent plus. Enfin, on ne peut plus être docteur à vie ou prof à vie ou quelque chose comme ça. Enfin, on est beaucoup plus perméable dans les catégories dans lesquelles on évolue. Et donc aujourd'hui, je suis consultante, mais peut-être, enfin, en développement durable, mais ce métier n'existait pas dans la boîte où je suis quand j'y ai postulé il y a quelques années en arrière. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de vous focaliser sur des expériences, des compétences. Et en fait, au lieu de chercher l'étiquette dans laquelle ou le moule dans lequel vous pourrez vous fondre, essayez de créer votre propre parcours à travers les différentes expériences que vous faites. Et à la fin, tout va se goupiller parce que vous trouverez quelque part, soit parce que quelqu'un l'a créé quelque part avant vous, soit parce que vous le créerez vous-même, la place et le parcours qu'il faut, avec l'étiquette qu'il faut et qui correspondra à ce que vous êtes à travers les différentes expériences que vous êtes forgées en fin de compte. Mais ne partez pas en prédéterminant votre parcours avec une étiquette. Soyez libre également d'être surpris et curieux de tout ce que la vie peut vous apporter et qui peut être parfois mieux que ce que vous auriez envisagé.
Merci Yovana, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. J'attends avec impatience vos retours sur ce premier épisode, mais aussi sur ce que vous souhaitez entendre dans les prochains épisodes. J'attends encore tout plein de personnes du secteur différent, en français et en anglais. Et sans vos retours, les épisodes ressembleront sûrement à celui-ci. Et donc du coup, si vous avez identifié quelque chose qui manquait, n'hésitez surtout pas à m'écrire sur les réseaux encore une fois. J'ai très hâte d'avoir vos retours. À très bientôt.